Bonjour, eh bien me revoilà, Christophe Rousset, claveciniste, chef d'orchestre, créateur des talents lyriques, qui reçoit donc pour ses petits podcasts ses amis. Et aujourd'hui, ce sera Mariam Clément. Bonjour Mariam.
Bonjour Christophe.
Alors, présente-toi d'abord. Qui es-tu, Mariam Clément ?
Qui suis-je ? Bien, je suis Mariam Clément, metteuse en scène d'opéra. Est-ce que ça suffit à me définir ?
Je ne sais pas. Comment est-ce que tu es venue à la musique ? Est-ce que tu fais de la musique quand tu étais petite, par exemple ?
J'ai fait de la musique quand j'étais petite. J'ai pris des cours de piano, dont je joue encore assez mal. Et j'ai pris plus tard des cours de chant.
D'accord. Et donc, tu peux lire une partition, c'est déjà pas mal.
Je peux lire une partition, comme tu l'as, je crois, constaté lors de nos collaborations.
Nous avons collaboré en effet, mais la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était pas pour collaborer directement. Je me souviens de toi dans un escalier à Lausanne, à l'Opéra. Que faisais-tu à Lausanne ?
Mais j'étais spectatrice de ta production, de Roland, je crois bien. Spectatrice et auditrice.
Oui, mais tu avais un projet.
J'avais un projet, c'était ma toute première mise en scène. Mmh. Qui était un double bill, comme on dit en anglais, le Signor Bruschino de Rossini et Giannis Chicchi de Puccini, à l'Opéra de Lausanne, ce qui était quand même un début assez luxueux, je dois dire, parce que voilà, l'Opéra de Lausanne est quand même une bonne maison pour débuter, suffisamment exposé pour qu'on vous remarque si ça se passe bien. Et puis, c'est ce qui s'est passé.
Mais tu es passé d'abord par l'assistanade, mise en scène. Moi, je me souviens plutôt de toi comme normalienne. Est-ce que je me trompe?
Oui, alors c'est une étiquette qui vous colle à la peau en France jusqu'à ce que mort s'en suive. On a beau avoir mis en scène 50 opéras dans sa vie, on vous dit encore « Ah, elle est normalienne ». Alors que bon, quand même, depuis mes années d'école, j'ai quand même fait deux, trois choses autres. Mais oui, j'ai fait des études assez classiques. Et puis, le virus de l'opéra m'a prise et jamais vraiment quittée.
Mais tu as fait de l'assistana ?
J'ai fait de l'assistana, pas beaucoup. J'ai un peu bidouillé, moi, en opéra. J'ai fait des stages, j'ai un peu tout fait. J'étais femme à tout faire à l'opéra. J'ai fait des stages, j'ai fait de la figuration. J'ai été coach de français pour les chœurs et quelques solistes à la Staatsoper de Berlin. J'ai fait aussi un peu d'assistana. J'ai été interprète, c'est-à-dire que je traduisais dans le travail de répétition entre l'italien, l'allemand, le français, l'anglais. Voilà. Donc j'ai fait à peu près tout ce qu'on peut faire. Mais j'ai pas été assistante très longtemps et j'ai pas été assistante attachée à un metteur en scène.
Tu pourrais qualifier, parce que moi je serais bien incapable de le faire, ton travail, une esthétique particulière. Tu pourrais dire que ce que tu aimes toi, ce que tu aimes voir à l'opéra, ce que tu as envie de...
Ah, alors ce que j'aime voir n'est pas forcément ce que je fais, ça peut sembler paradoxal, je ne sais pas si ça l'est tant que ça finalement. Ce que j'aime voir, c'est très divers, c'est bien ce qui m'intéresse, si on voyait toujours la même chose, ce serait ennuyeux. Ce qui caractérise mon travail, il faudrait sans doute le demander à d'autres, mais je le définirais par le fait de raconter des histoires, je crois de plus en plus, c'est ce que j'ai l'impression de faire, raconter des histoires.
Comme tu la racontes à ta petite fille.
Par exemple, c'est peut-être pour ça que je dis ça. Oui, c'est vrai. Oui.
Nous avons collaboré, nous, sur du Rameau, sur du Cavalli.
Sur du Purcell.
Sur du Purcell.
Voilà.
Oui.
Deux Rameaux, un Purcell, un Cavalli. C'est pas mal.
Oui, c'est pas mal. C'est pas mal, surtout que c'était dans des belles maisons.
De très belles maisons. Notre première, c'était Vienne. Si je ne m'abuse, Castor et Pollux, qu'on a refait ensuite à Toulouse. Mmh. Ensuite, notre premier, c'était Platé.
C'était le premier.
C'était Platé à Strasbourg.
J'ai du mal à retrouver là.
Qu'on a repris après. Et puis, Castor à... Oui, bien sûr, c'était Platé. Ensuite, Castor à Vienne et à Toulouse. Puis, Fairy Queen, à nouveau à Vienne. Puis Callisto de Cavalli à Strasbourg, c'est ça? Je crois que je ne me suis pas trompée dans la chronologie.
Ça doit être ça. Qu'est-ce qui t'intéresse, toi, dans l'opéra baroque, d'une façon générale? S'il y a d'une façon générale, d'ailleurs, parce que c'est quand même des cas très particuliers.
Oui, ça couvre un répertoire qui est assez vaste, entre Cavalli et Purcell.
Tu as fait aussi du baroque sans moi, je veux dire, tu as fait des Handel, des choses comme ça.
J'ai fait du baroque sans toi. Écoute, de Handel, je n'ai fait qu'Agrippine, à plusieurs reprises, parce que c'est un spectacle qui a été beaucoup repris. Exactement, j'ai fait Giazzone de Cavalli. J'en ai pas fait tant que ça d'autres, finalement. Tu es mon principal chef baroque. Je pense que si on peut trouver quelque chose de commun à ce répertoire, c'est d'abord le type d'interprète qu'on a dans ce genre de répertoire, qui n'est pas du tout le même monde que le type d'interprète qu'on a quand on fait voilà, du bel canto ou du vérisme. Ça charrie avec soi une autre culture d'opéra et donc d'autres types de personnalités, d'autres manières de travailler, d'autres cultures de travail. Ce n'est pas négligeable. Et on est quand même plus proche d'une certaine théâtralité, puisqu'on est plus proche des débuts de l'opéra qui sont voilà, du théâtre chanté et mis en musique. Dans Cavalli en particulier, Monteverdi aussi, que j'ai fait aussi, c'est vrai, sans toi, c'est du théâtre. L'opéra, c'est toujours du théâtre, mais là, on est quand même près des origines de l'opéra. Et puis, je pense que ce que ces œuvres ont en commun aussi, c'est peut-être une certaine abstraction, quelque chose qui est moins prescriptif dans les livrets que ce qu'on peut trouver, je prends un exemple extrême, mais dans Puccini, et qui donne une grande liberté d'interprétation en mise en scène.
Alors, moi, je me souviens d'une collaboration extrêmement fluide et plutôt sympathique avec toi. Plutôt, j'ai dit.
Hein. Plutôt, je note. On en parlera après. Ouais.
Mais est-ce que tu t'es retrouvée, toi, dans des situations très conflictuelles avec un chef, par exemple ?
Très, très, très rarement. Très rarement. Je ne comprends pas très bien ces gros conflits entre chef et metteur en scène, parce que je pense que ce qui m'attire dans l'opéra, ça paraît être un peu une pause comme ça, mais c'est profond, c'est l'idée de la collaboration. C'est-à-dire que c'est l'idée que chacun a son domaine de compétences, et bien que je lise la musique, et bien qu'effectivement je sois sensible à la musique, je ne prétends absolument pas avoir des compétences infinies en termes de connaissances de la musique. Chacun a son domaine de compétences et chacun est un peu autiste dans sa propre bulle et fait son truc. Et en même temps, ces bulles se rencontrent et il y a une zone grise entre les deux qui est la zone qui est vraiment passionnante où on ne sait plus trop si c'est du ressort du chef d'orchestre ou du ressort du metteur en scène. Et si chacun fait son travail avec sincérité et passion et en même temps avec ouverture d'esprit en étant ouvert au travail de l'autre, c'est merveilleux, c'est-à-dire c'est magique. C'est dans cette collaboration-là et c'est dans cette zone grise-là que naît pour moi tout l'intérêt de l'opéra et toute la magie de l'opéra. Et dans les répertoires qu'on a fait ensemble, voilà, quand on fait du récitatif, est-ce qu'on est dans la direction d'acteur ? Est-ce qu'on est dans l'indication musicale ? C'est tout ce flou-là qui est passionnant. Par exemple, le récitatif, parce que c'est un exemple extrême. Mais c'est vrai de tout. Et c'est vraiment le ping-pong qui m'intéresse. C'est-à-dire que tu sais comment on a travaillé ensemble. Tu fais une répétition musicale, j'écoute ce que tu dis. Tu dis quelque chose qui claque, me fait penser à un truc. Je donne une indication à un chanteur, tu entends, tu dis « Ah, bah, si elle te dit ça, mais alors il faudrait plutôt le chanter comme ça. » Et ça, c'est dans ce ping-pong-là que ça m'intéresse vraiment. Donc, non, de vrais conflits, j'en ai jamais eu. Par ailleurs, je pense que les cas où ce que dit le metteur en scène et ce que dit le chef d'orchestre, c'est vraiment incompatible, ces cas sont assez rares. C'est-à-dire qu'en apparence, ça peut avoir l'air de se contredire. Les chanteurs vont d'ailleurs souvent venir vers nous en disant « Ah oui, mais la metteuse en scène, elle m'a dit de... Ah mais non, mais le chef, il m'a dit de faire ça, donc je ne peux pas faire ce que tu me demandes. » Parce que... Mais en fait, c'est très naïf et très superficiel. Souvent, si on creuse un peu, on se rend compte que c'est compatible. Et même au contraire, ça donne l'indication de l'autre, donne une profondeur accrue à ce qu'on a dit nous.
Et avec des chanteurs, tu as eu aussi des problèmes ? Des gens qui...
Oui.
Ils n'ont rien à faire de ce que tu peux raconter. Alors on fait des déplacements, mais l'aspect dramaturgique, ça ne les intéresse pas. Ils se plantent là et puis chantent.
Très peu aussi, à vrai dire, parce que les chanteurs qui font de l'opéra, ils aiment quand même ça, de manière générale. Alors, après, je considère que ça fait aussi partie de mon métier de savoir comment les prendre. C'est ça qui est drôle aussi, c'est qu'on ne traite pas tous les chanteurs de la même manière. Enfin, voilà, c'est du matériau humain, c'est pas du théâtre de marionnettes. Donc, tous les chanteurs ne fonctionnent pas pareil, ne réagissent pas au même type d'indications. C'est pour moi assez stimulant d'arriver à trouver la clé qui fait que voilà, tel chanteur va réagir, tel chanteur va mieux réagir à ci ou à ça. Oui, après, c'est bien sûr, ce sont des questions de personnalité. Il y a des gens avec qui on s'entend plus ou moins. Il y a des gens qui sont un peu réfractaires, des gens qui sont un peu, peut-être un peu moins ouverts à l'interprétation scénique. Mais les vrais conflits, j'en ai eu très peu.
Et tu arrives avec ta caravane, tu arrives avec ton chez-toi, c'est-à-dire ta décoratrice, tes costumes, tes lumières, tout ça, tu arrives avec le clé en main, c'est-à-dire tu es, quand on demande du Mariam Clément, on sait déjà qui va être le, toute l'équipe ou...
Oui, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est-à-dire que le directeur ou la directrice de l'opéra m'engage, de même qu'il t'engage toi comme chef d'orchestre, et puis moi, j'amène les membres de mon équipe. Donc effectivement...
Ce que je veux dire, l'équipe est toujours la même.
Julia Hansen, avec qui je fais presque toujours les spectacles, qui signe les décors et les costumes. En lumière, j'ai un pool de gens avec qui j'aime bien travailler. Ils ne sont pas toujours les mêmes, ils ne sont pas toujours disponibles. Mais oui, effectivement, au fil des années, on se crée une garde rapprochée de gens avec qui on aime bien travailler. Ce n'est pas le cas de tous les metteurs en scène, d'ailleurs. Il y a des gens qui changent un peu de collaborateurs à chaque spectacle. Mmh. Moi, je suis assez fidèle, de même avec mon chorégraphe, Mathieu. Ça fait plusieurs... Mathieu Guillemont, ça fait plusieurs fois qu'on travaille ensemble. Voilà, de la vidéo, s'il en faut. Enfin, j'aime bien, surtout avec Julia, développer une collaboration, rechercher des choses, avancer ensemble. Après, il n'est pas exclu qu'on travaille avec d'autres gens. C'est stimulant aussi.
Une production qui t'a marqué particulièrement, exclue, s'il te plaît, celle que tu as faite avec moi, comme ça, ça sera moins embarrassant.
Ah non, alors ça, je ne peux pas dire, parce que c'est, écoute, quand on a fait presque 50 opéras, comment veux-tu que je...
Je ne sais pas, il y a certainement des moments qui sont plus marquants que d'autres, des opéras, d'ailleurs, que tu as plus aimé que d'autres. On n'aime pas tout dans le répertoire.
Non, on n'aime pas tout, mais c'est voilà, c'est un peu comme des enfants. Après, j'en parle à mon aise, je suis mère d'une fille unique, donc je ne sais pas comment c'est quand on a plusieurs enfants. Mais je crois qu'on les aime tous également, différemment. Cela dit, je dois dire, hasard ou pas hasard, que les productions qu'on a faites ensemble... Non, mais c'est vrai, écoute, par ailleurs, comptent quand même parmi... voilà, notre platé était quand même... reste une production très chère à mon cœur. Castor aussi, je pense que c'est une des productions dont je suis le plus fière. Fairy Queen, c'était aussi une production très particulière parce qu'elle avait un côté un peu méta-opéra. Comme ça, on parlait d'une troupe de gens qui montent un opéra. Donc, c'était drôle de se voir refléter comme ça dans les spectacles. Ça peut être aussi lié à des lieux. Mon Don Pasquale à Glyndebourne reste aussi très cher à mon cœur parce que c'est une production qui a été très souvent reprise à Glyndebourne, que Glyndebourne est un endroit que j'adore, un endroit très particulier. Voilà, de même, la Carmen que je viens de faire au Festival de Santa Fe, là, c'est quand même... Santa Fe, c'est un endroit magique, difficilement descriptible à la radio, mais avoir le coucher de soleil du Nouveau-Mexique tous les soirs en toile de fond, c'est quand même assez magique. Mais voilà, de même, je peux dire, la première fois que je travaille à l'Opéra de Paris, qui est le premier opéra où j'ai été quand j'avais 4 ans, bah forcément, c'est très émouvant. Enza Legretta à Garnier, ou là, Cendrillon à Bastille. Évidemment, travailler dans sa ville natale, c'est très émouvant aussi. Pour plein de raisons.
Est-ce que tu as des rêves? Tu as un opéra que tu rêverais de mettre en scène et que tu n'as pas encore mis en scène dans ces 50 que tu décris?
Non, alors je sais que c'est très décevant. Mais je n'ai pas d'opéra que je rêve de mettre en scène parce que, dans mon expérience, les productions qui ont été un peu magiques, comme ça, je pense à celles que je viens de nommer, voilà, par exemple, Don Quichotte de Massenet à Bregenz, qui était aussi une production magique, voilà, parce que j'étais fière du résultat, parce que l'équipe était une espèce d'état de grâce, comme ça, parce que le lieu sur le lac est merveilleux. Souvent, c'était des œuvres que jamais je n'aurais choisies auparavant, que je ne connaissais pas, ou qui, a priori, m'ont semblé difficiles. Je me souviens que quand tu m'as parlé de Castor et Pollux, j'ai lu ça, je me suis dit, bon, d'accord, donc qu'est-ce qu'on fait de ce machin? voilà, j'étais immédiatement sensible à la musique, mais le livret me semblait difficile. De même, Fairy Queen, qui était une énigme absolue, parce que pour le coup, il n'y a pas de livret. Enfin, ce ne sont pas forcément les œuvres que j'aurais choisies. Et dans le frottement avec ces œuvres, dans cette espèce de corps à corps avec l'œuvre, on se dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire? J'ai été obligée de me dépasser moi-même et de trouver quelque chose que je n'aurais pas soupçonné.
Oui, tu as parlé de Carmen. Oui. Alors, quand on fait Carmen, quand même, on est aux prises avec quelque chose qui est tellement Image d'Épinal. Qu'est-ce qu'on fait?
Ouais, qu'est-ce qu'on fait? Alors ça, c'est difficile. Je pense que la réponse standard et attendue, ça serait dire « mais on fait comme si c'était n'importe quel autre opéra et on fait comme si c'était la première fois qu'on écoutait Carmen et tout ». Mais je crois que c'est naïf ou un peu hypocrite, je ne sais pas. On ne peut pas faire comme si on ne connaissait pas Carmen. C'est de toute façon, il y a tellement de strates d'écoute, de souvenirs, d'attentes, de fantasmes, de rêves, de craintes, d'angoisses qui sont entre l'œuvre et nous, qu'on ne peut pas faire comme si elles n'existaient pas. Je pense qu'il faut les prendre en compte dans notre approche de ces œuvres-là. De même, Don Giovanni, que je vais mettre en scène cette année à Glyndebourne, je ne peux pas faire comme si Don Giovanni était un opéra lambda. On ne peut pas fuir ces œuvres-là. C'est pas facile.
Tu prends en compte aussi les lieux dans lesquels tu joues, c'est-à-dire si tu joues en Allemagne ou si tu joues, je sais pas moi, en Allemagne on attend beaucoup du Reggae Theater, en France on attend quelque chose peut-être un petit peu moins radical, en Angleterre le petit Wit, et etc. Pas si tu as beaucoup travaillé en Italie, mais en Italie c'est plutôt.
Je n'ai jamais travaillé en Italie.
Donc comment est-ce qu'on s'adapte ou du moins on se confronte à un public où tu n'y penses pas? Tu te dis qu'après tout c'est le public.
Écoute, je crois que si on s'y conforme, c'est inconscient parce qu'on a déjà tellement à faire entre soi-même et l'œuvre que si en plus on s'embarrassait de l'horizon d'attente particulier, géographique, de tel ou tel théâtre, je veux dire de façon consciente et calculée, stratégique quasiment, alors là, on ne s'en sortirait plus. C'est-à-dire qu'il y a déjà tellement de facteurs en jeu à l'opéra, il y a tellement de contraintes au sens le plus positif. Hein. Moi, j'aime la contrainte, sinon je ne ferais pas d'opéra. Mais il y a tellement déjà de contraintes qui nous lient que celle d'un public spécifique serait pour moi la goutte d'eau qui ferait déborder le vase. Après, je ne peux pas dire ce qui se passe. Peut-être qu'inconsciemment, oui, quand je travaille en Allemagne, j'ai quelque chose dans mon cerveau qui se met en branle de façon différente. Voilà, si je travaille. Mais pas vraiment. Parce qu'on est très vite dans un rapport à l'œuvre qui est direct. Et le public, ou disons le théâtre dans lequel on va travailler, c'est très abstrait. Le public, pour nous, c'est très abstrait. C'est à la fois... Ce qui ne veut pas dire qu'on ne travaille pas pour le public. On ne travaille que pour le public. C'est du spectacle vivant, donc c'est fait pour le public. Donc on a toujours le public en ligne de mire au sens où on se demande, et là encore, je reviens à cette idée de raconter une histoire, on se demande comment raconter cette histoire pour qu'elle arrive à destination, pour qu'elle soit lisible, pour qu'elle soit émouvante, pour qu'elle soit drôle, pour qu'elle soit triste. Voilà. Donc le public est le destinataire de ça. Mais pas le public au sens de « Ah, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça plaise au public de Paris ?» ou voilà. Donc c'est à la fois très concret et très abstrait. C'est un peu difficile à expliquer. C'est pas très clair.
Et parlant de théâtre, est-ce que tu as fait du théâtre, mise en scène d'une pièce de théâtre pure, est-ce que tu as fait ça ou tu veux le faire ou tu le feras ou tu le feras jamais ou...
Il y a beaucoup de questions là. Alors, je ne l'ai jamais fait. Ça a longtemps été un très grand complexe parce que je me suis dit, voilà, j'ai le complexe de l'imposteur classique. Je ne suis pas une vraie metteuse en scène, je n'ai jamais fait de théâtre. Bon, là, quand même, avec 50 opéras à mon actif, je me dis qu'il y a quand même, il doit y avoir un truc quand même qui fonctionne pour qu'on continue à m'engager. Je me suis un peu affranchie de ce complexe de l'imposteur par rapport au vrai metteur en scène qui serait le metteur en scène de théâtre. Mais je suis venue à la mise en scène par l'opéra et non l'inverse. Je ne suis pas venue à l'opéra par la mise en scène. C'est vraiment l'amour de l'opéra qui m'a guidée vers l'opéra et c'est mon désir, c'est un désir d'opéra. C'était ça avant tout. Je voulais de l'opéra. J'ai compris que la personne que j'étais serait satisfaite dans son désir d'opéra et serait heureuse en racontant ses histoires, en mettant en scène. Alors peut-être que par ce biais-là, j'en viens petit à petit au théâtre. Oui, là, mon complexe de l'imposteur revient alors au galop, parce que je ne me sens absolument pas légitime. Mais je pense que petit à petit, à mesure que je comprends lentement ce que c'est que la mise en scène, petit à petit, non, mais c'est vrai, je me dis que ça serait passionnant d'essayer en théâtre. Voilà, d'essayer de trouver la musique là où en opéra, elle m'est donnée.
Bon, ça fait beaucoup de belles choses à écouter. Merci beaucoup, Mariam Clément, pour cet entretien.
Merci à toi.